Afrique. Moi, c'est André Dimbouzima, au Kassai oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi. Envie de permettre au gouvernement de poursuivre son programme d'action, les députés ont voté le mardi dernier pour l'octroi des crédits provisoires à l'exécutif congolais avant la promulgation de la loi des finances publiques. Ceci relance les débats sur ce qui constitue l'obstacle aujourd'hui, depuis 2 ans maintenant, pour que le budget de l'État, souvent adopté, ne soit pas exécuté à 100% et qu'en début de l'année, on recourt toujours à la 12e provisoire qui, selon certains observateurs, n'en profite pas à la population. Parole aux auditeurs en parle aujourd'hui, avec comme question principale, selon vous, qu'est-ce qui constitue l'obstacle majeur à la base de la souffrance de l'exécution et à temps échu du budget de l'État? Notre standard est ouvert, composé le 081 890 303 15 pour participer à ce débat. Merci à l'équipe de production. De parole aux auditeurs, c'était Poutou, Pierrot et Lamegi et Jean-Noël Mokondo. Mesdames et messieurs, les fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Professeur Grégoire Bakandeja, vous êtes économiste expert en budget. Vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous savons tous que le budget permet de faire face aux besoins de financement des programmes et des projets qu'un exécutif mène dans différents domaines politiques. Plus il est exécuté à temps, plus il y a des chances de répondre réellement aux besoins sociaux des bases. C'est ce que pense plus d'un observateur. Est-ce que c'est à tort que les gens réfléchissent de cette façon-là?
Oui, c'est pas à tort, parce que je crois qu'il y a une attente de la population sur beaucoup de choses. Les gens pensent que le budget va résoudre tous les problèmes du pays. Mais ce qui arrive, c'est simplement un problème technique. Les retards dans l'exécution du budget sont dus principalement en amont à ce qui a été fait au niveau du gouvernement. Et si le projet n'est pas déposé à temps à l'Assemblée nationale avant le 15 septembre, il arrive que ce travail ne soit pas finalisé avant le 15 décembre. En ce moment-là, on est obligé de procéder de cette manière-là. Les crédits provisoires, ça fait partie de l'exercice. Ça ne doit pas faire peur puisque c'est limité à une trentaine de jours, le temps qu'on retravaille sur les documents. Et c'est un problème qui va être réglé. Mais sinon, ça fait un peu désordre lorsque c'est à répétition, mais techniquement, ce n'est pas un problème qui va à l'encontre de l'aspiration des populations.
Alors, on a l'impression que cela commence à devenir une habitude. Il y a 2 ans, nous avons fonctionné avec le crédit provisoire en début de l'exercice, donc. Et puis, cette année encore, nous commençons avec le même exercice. Est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénients qui peuvent, tirer de cette habitude-là?
Oui, l'inconvénient provient du fait que au Congo, nous n'avons pas la culture du débat d'orientation budgétaire. Vous savez, dans la pratique, on sait que le budget, c'est l'affaire d'abord du gouvernement, mais pour que ce budget soit appliqué, il faut nécessairement que ça passe par le Parlement. Et donc, si le Parlement n'est pas informé des orientations du gouvernement avant, ça peut arriver à ce qu'on se retrouve dans la situation actuelle. En principe, il y a toujours un débat avant que le budget soit présenté au Parlement. Il y a un travail qui se fait par association des parlementaires, notamment à travers la commission économique et financière et qui, normalement, sur la base des orientations fixées par le gouvernement, essaye de débattre avant que le budget soit envoyé, finalisé par le gouvernement et envoyé à l'Assemblée. En ce moment-là, on gagne un peu le temps. Parce qu'au cours de ce débat seront précisées les orientations, les priorités du gouvernement. Et en ce moment-là, quand ça passe à l'Assemblée, le chemin avait déjà été balisé par le débat d'orientation budgétaire. Et donc, ça peut aller vite. Alors, la difficulté, c'est que ce débat n'est pas souvent pratiqué. Et chaque parlementaire qui vient pour la discussion budgétaire, essaye de faire passer telle priorité qui est sa priorité, alors que les priorités du gouvernement sont connues. On en arrive donc à un saucissonnage des crédits qui fait que, in fine, si on n'a pas suivi les orientations et les priorités du gouvernement, le chef de l'État, dans ses prérogatives constitutionnelles, soit amené à demander une seconde lecture. On perd le temps, mais la seconde lecture est justifiée par les priorités du gouvernement, et les priorités actuellement, c'est notamment la défense nationale. Si on a coupé les crédits qui étaient destinés à la défense, il est tout à fait normal que le président, compte tenu de cela, demande une seconde lecture. Mais c'est un travail qui peut se faire techniquement très très vite.
Voilà, vous l'avez dit, nous retenons qu'aujourd'hui, ce qui constitue également l'obstacle dans les règles d'applicabilité ou de l'établissement du budget de l'État, c'est notamment la méconnaissance des priorités du gouvernement, et que les débats qui devaient tourner autour de cela n'en est pas un. Voilà, mais il y a également une autre opinion qui parle plutôt de ces principes d'annualité qui, en tout cas, souffre de respect dans l'exécution du budget. C'est vrai que vous avez évoqué l'aspect priorité, mais il y a aussi d'autres raisons.
Oui, mais vous savez, l'annualité budgétaire, ce n'est pas un principe absolu. L'annualité budgétaire prévoit que chaque année, il faut qu'il y ait un budget voté suivant le calendrier qui est là, un calendrier qui commence à partir du 1er janvier de l'année, avant que le budget soit adopté. Mais ce calendrier peut ne pas être respecté. Je vous ai dit que le calendrier n'a pas été respecté pour des raisons que vous connaissez certainement. Mais si le calendrier n'a pas été respecté, alors en ce moment, on doit recourir au crédit provisoire. Alors le plus important, c'est d'éviter que on y recourt le plus longtemps, parce que ça donne l'impression que les parlementaires ne travaillent pas bien, ou bien le gouvernement ne travaille pas bien. Tout dépend des délais, des dépôts, du respect des délais des dépôts. Si on respecte les délais des dépôts et les délais d'examen, si par exemple les parlementaires ne s'éternisent pas à revenir sur tel point, c'est tellement technique que quand on voit même ce budget-là, on voit simplement, il est de 7,8 milliards, ou presque 1 milliard de dollars, en équivalent franc-congolais, il est insignifiant par rapport aux besoins du pays. Et pour des raisons diverses. Pourquoi il est insignifiant? Parce qu'il y a le développement de l'économie informelle, il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors des circuits formels et des banques. Quand on essaie de mettre de l'ordre, ça embête certaines personnes qui sont dans ces circuits de mafieux. Et vous voyez qu'on en arrive à une situation où on ne trouve pas son compte. En dehors du budget, il y a plusieurs types de budget. Il y a le budget de fonctionnement, il y a le budget d'investissement. Et tout ça, il faut voir. Ce n'est pas dans un budget de l'État qu'on va résoudre tous les problèmes liés au développement de l'ensemble du pays. Ça, c'est rien que pour les charges de l'État. Parce qu'en fait, le budget, là, c'est un compte. C'est un simple compte parmi les comptes de la nation qui inclut les comptes des entreprises, soit publics ou privés.
Oui, professeur Grégoire, parce que vous parlez d'un budget comparé à un compte, sûrement il y a une autre cour des comptes qui doit nécessairement faire l'exercice du contrôle de ces comptes.
Oui, mais vous savez que la cour des comptes, depuis qu'elle existe, elle n'a jamais rendu un arrêt. La cour des comptes, c'est pour contrôler l'utilisation qui a été faite des deniers publics par les mandataires. Et cette utilisation, ce contrôle se fait justement après que le budget est exécuté. Donc c'est une année ou deux ans après que la Cour des comptes vient faire la reddition des comptes. Et c'est à partir de la reddition des comptes qu'on va s'assurer comment on a exécuté, qu'est-ce qu'on a réellement eu comme recette, qu'est-ce qu'on a réellement eu comme dépense. Et c'est ça qui permet plus tard de voir comment réajuster les recettes ou réajuster aussi les dépenses en fonction des rentrées de recettes. Mais s'il y a des exonérations qui sont accordées, bon, quand vous exonérez, vous diminuez les recettes, ce que vous exonérez, il faut le retrouver à la fiscalité directe. C'est la raison pour laquelle on doit mettre l'accent sur l'efficacité des régies financières de l'État, que ce soit la DGI, la DGDA et la Gérade, pour que ces régies renflouent les comptes du Trésor. Parce qu'un État n'a pas d'autres ressources que celles qui proviennent de la fiscalité, fiscalité directe ou fiscalité indirecte. Bon, sur ce point-là, l'État a des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a des ressources qui ont été cédées aux provinces, par exemple. Bon, on sait dans quelles conditions les provinces aussi les utilisent. Or, le budget de l'État est alimenté aussi par les budgets des provinces qui doivent s'intégrer dans le budget général. Mais si au niveau des provinces, les ressources qui leur ont été rétrocédées, par exemple, les ressources liées aux taxes foncières, hein, qui sont perçues par les provinces, les vignettes automobiles, et tout ça c'est perçu par les provinces. Mais si c'est mal utilisé là-bas, si ce n'est pas suffisamment canalisé vers le trésor, on aura des difficultés pour alimenter, alimenter la caisse générale du trésor qui se trouve au niveau du pouvoir central. Donc il y a tous ces éléments-là qui font que dans le budget de l'État, on ne va pas trouver les solutions à tous les problèmes parce que ce budget est déjà entamé au niveau des provinces où dans les provinces, on n'a pas souvent des capacités pour mobiliser davantage de ressources. Et les seules ressources qui sont mobilisées dans les provinces sont utilisées à des fins que vous connaissez.
Professeur Grégoire Bakandjiza, nous allons accorder la parole à nos auditeurs qui sont déjà en ligne, Léon qui est à Béni et Kema Mboujimaï. Et nous avons également d'autres préoccupations. Nous allons y revenir avec vous dans quelques instants.
Parole aux auditeurs. Par internet, pa@radiookapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Christophe Campi de Bukavu dit ceci, la principale cause en est que le gouvernement n'est pas contrôlé comme il fallait. La solution, c'est qu'il faut la création d'une institution indépendante chargée de contrôle et de fonctionnement de tous les ministères et des entreprises publiques. Ça, c'est Christophe qui est à Bukavu. Nous avons Léon qui est à Béni. Et bonjour Léon. Voilà, Léon, nous avons lu la correspondance de Christophe qui parle de la principale cause qui est du fait que le gouvernement n'est pas contrôlé. Est-ce que vous partagez cet avis? Et pourtant, il y a l'existence de la Cour des comptes.
Oui, merci aussi d'abord pour m'accorder la parole. Je sais que ce qui vient d'être dit par le président auditeur, je partage effectivement son avis. Le gouvernement n'est pas contrôlé, c'est un gouvernement qui travaille librement et qui décide vraiment ses besoins, mais pas les besoins du peuple congolais. Mais par rapport au sujet d'aujourd'hui, je dis que le crédit provisoire qu'on a apporté au gouvernement, je voudrais juste poser une question à notre invité. Est-ce que le crédit provisoire qu'on a apporté, dès que le budget sera mis en vigueur, les parlementaires auront le temps de peut-être d'interpeller le ministre et de venir expliquer si ce crédit a été sérieusement exécuté au bénéfice du peuple congolais ou bien au bénéfice des orientations du gouvernement, puisque le crédit provisoire vient justement prendre les charges de l'État. L'État doit fonctionner même si le budget n'est pas là. Est-ce que les parlementaires auront cette occasion-là de demander, peut-être c'est mon avis. Et c'est une question aussi qui intéresse la population de connaître est-ce que le crédit a été bien effectué dans le travail.
Voilà, merci beaucoup. Vous avez une préoccupation par rapport au suivi que doit faire le parlementaire par rapport à l'octroi de ces crédits provisoires que nous appelons la deuxième provisoire. Merci Léon. Clément, vous êtes en Mboujimaï. Bonjour. Voilà, Clément, vous êtes en Mboujimaï, vous avez suivi Léon tout à l'heure et nous avons lu la correspondance de Christophe qui parle de la principale cause qui est le fait que le gouvernement n'est pas contrôlé comme il fallait. La solution pour lui, c'est qu'il faut la création d'une institution indépendante chargée de faire ses contrôles.
Oui, moi je voudrais aussi ajouter une deuxième cause. Donc, il y a les urgences que l'État est obligé de répondre et en répondant, il se trouve incapable et il doit faire recours maintenant au crédit provisoire. Mais le problème est celui-ci. Moi, je trouve que les parlementaires, en faisant recours au crédit provisoire, eux aussi se retrouvent correctement. C'est pourquoi c'est maintenant la deuxième année qu'ils font toujours recours au crédit provisoire. Donc, c'est-à-dire qu'ils mangent bien et ils se retrouvent très bien dans cet octroi de crédit provisoire. Moi, ma question est de poser maintenant au professeur. Qu'est-ce que eux sont en train de faire, les professeurs d'économie? Ils ont étudié dans les pays extérieurs et étrangers. Dans ces difficultés pareilles, cela à sortir de cette impasse. Parce que c'est la deuxième année que nous ne faisons que recours au crédit provisoire.
Voilà, merci beaucoup Clément, et là également ça rejoint la préoccupation des autres hein, qui aimeraient savoir si réellement le crédit provisoire est lié directement au dépassement budgétaire. Il y a Kamoye qui dit que le Parlement exige au gouvernement l'élaboration et la présentation du budget en trois formes suivantes: budget par nature, budget par fonction et budget par ordre. Le gouvernement doit engager les économistes compétents au ministère du plan, du budget et des finances. Professeur Grégoire Bakandeja, vous avez suivi Léon, vous avez suivi également la correspondance de Christophe Campi, et Clément qui insiste également sur les crédits provisoires qui profiteraient à certaines personnes. Ben alors, est-ce qu'on peut, comme l'a posé comme question Kamoye, est-ce que le crédit provisoire est lié directement au dépassement budgétaire?
Non, je crois qu'il y a une certaine compréhension de la part de nos amis. D'abord, il n'y a plus de budget pour ordre. Je crois que le dernier intervenant a parlé du budget pour ordre,
oui.
Pour fonction. Donc, ça n'existe plus, le budget pour ordre. Deuxièmement, la question du contrôle. Qui doit contrôler le gouvernement? C'est le Parlement qui contrôle le gouvernement. On ne peut pas créer d'autres institutions indépendantes. Nous avons la constitution actuelle qui prévoit l'existence des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le Parlement, son rôle principalement, c'est de contrôler la gestion gouvernementale à travers les questions orales, les questions écrites, les interpellations. Ça, il appartient à notre auditeur de juger ce qui a été fait jusque-là au niveau du Parlement. Deuxième élément de précision, en ce qui concerne les crédits provisoires, je vous dis que c'est un exercice technique. En principe, le Parlement avait adopté
la loi de finances.
De finances de l'année dans le délai. Mais comme le Parlement avait modifié un certain nombre de points qui n'étaient pas suffisamment examinés et conformément aux priorités du gouvernement, c'est le président de la République qui a demandé la seconde lecture. Donc, en demandant une seconde lecture, c'est pour corriger les éléments budgétaires que ça et adapter les crédits aux priorités du gouvernement. Autrement dit, les parlementaires ont modifié certaines rubriques budgétaires sans que ces rubriques soient justifiées par le gestionnaire qui est le gouvernement. C'est ça qui a été demandé et ça ne doit pas poser le problème parce que c'est un travail qui doit être fait dans le délai prévu par la Constitution. Alors, quand on a fait la reconduction de crédit, c'est-à-dire qu'on a reconduit le budget
de 2002, oui.
Précédemment, pour répondre par exemple aux besoins de l'État, conformément à la nomenclature, des dépenses de l'État, ils le mettent en 8 catégories, et c'est ça qui a été repris pour dire qu'il faut payer les frais financiers, la dette extérieure, les infrastructures, pour ne pas arrêter le fonctionnement de l'État en attendant que ce travail soit fait par les parlementaires.
Mais je comprends
ce que monsieur
Clément,
des auditeurs veut.
Clément de Mbujimayi.
Quand il dit que, parce que les députés normalement devaient partir en congé, ce qu'on appelle la session. La prochaine session parlementaire sur le mois de mars.
Mm-hmm.
Mais là, ils devaient arrêter depuis le 15 décembre. Ils sont en session extraordinaire. Peut-être en parlant de session extraordinaire, ils voient certains avantages qu'ils pourraient tirer les députés en ce qui concerne le dépassement du temps de travail qui leur était imparti. Ça, c'est un problème interne. Mais moi, je dis que techniquement, cet exercice est normal. Et ça deviendrait inquiétant si, à la fin du mois de janvier, il n'y a pas de loi de finances de l'année promulguée par le chef de l'État après adoption. Là, en ce moment-là, ça pourrait être inquiétant.
Oui, parce que d'aucuns craignent la situation de 2012. C'est vrai que le gouvernement a été installé pratiquement après mars, si ma mémoire est très bonne. Et après, ils ont fonctionné avec le crédit provisoire. Et finalement, le contrôle, c'est vrai, comme vous l'avez dit, a été fait au niveau du Parlement. Mais la population n'a pas toutes les informations questions sur l'exécution du budget. On se rend compte que le budget n'est toujours pas été exécuté à 100%, et c'est ce qui fait que d'aucuns parlent d'ailleurs d'un dépassement budgétaire, on ne comprend rien, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui...
Ils ont tout à fait raison, mais monsieur Gérard, vous savez la situation qui s'est passée en 2011, à la fin de l'année 2011. Alors, l'erreur provient du fait que les parlementaires de l'ancienne législature n'avaient pas examiné la loi budgétaire avant les élections. Ils ont laissé faire. En ne votant pas la loi budgétaire avant les élections, qui était prévue au mois de novembre, nous avons eu une situation dramatique en ce qui concerne la gestion des finances de l'État. C'est une situation dramatique parce que nous avons eu une période d'instabilité qui a fait que le gouvernement a été mis en place un peu plus tard, et le temps de préparer une loi des finances, ça a pris du temps, et cette loi des finances, son exécution n'a pas été contrôlée.
Alors, si vous revenez un peu...
Là, c'était justifié. Oui. C'était justifié parce qu'on était au-delà de 3 mois. Mais la situation actuelle est une situation un peu normale. Cette situation un peu normale ne doit pas être alarmante.
Voilà. Sylvain, qui est à Boulia, au Tchoumbé, à Kalemi, mais nous prenons d'abord la lettre de Franklin Kamoyé, qui dit la solution pour lui, c'est pour éviter d'ailleurs le retard, ainsi que tous les problèmes que connaît le budget congolais, il faut que le Parlement intensifie en fin de chaque année des débats sur l'exécution budgétaire, pour voir comment les dépenses ont été effectuées au niveau de tous les ministères, de la primature, de la présidence, ainsi que dans les provinces et autres. Mais on sait tout de même, professeur, qu'en 2009, c'est vrai, le Parlement n'a pas eu à débattre sur cette question, sur l'exécution du budget 2009 à la fin. Il y a eu un problème qui était sérieux.
Oui, mais ça c'est lié à la démocratie congolaise. Vous savez que la démocratie congolaise est ce qu'elle est. Mais je dis tout simplement que tout contrôle dans le cadre du fonctionnement d'un État normal doit conduire à des sanctions. Les sanctions positives, lorsqu'on a bien travaillé, les sanctions négatives. Or, vous savez que en République démocratique du Congo, nous avons cette question de l'impunité qui fait que parfois les gens ont l'impression que on encourage ceux qui détournent les deniers
des publics
de l'État, et qu'on appelle d'ailleurs souvent des grands prêtres, alors qu'on sait que cet argent provient du Trésor. Donc, la caisse du Trésor doit normalement être gérée avec beaucoup de prudence, parce que un manquement, même d'un fonds de manquant constitue en fait un détournement, si cela est de la responsabilité du gestionnaire. Mais c'est ça la culture qui est au Congo. Alors, peut-être qu'il y a un effort qu'il faut faire pour que plus tard, ceux qui vont participer à la gestion sachent qu'en allant à la gestion, ils ne vont pas gérer les biens de leur père et mère, et tout ça, qu'ils viennent gérer les biens de la collectivité. Et là, j'en profite pour répondre à la question de votre ami qui a parlé des enseignants, des professeurs d'université. Vous savez, nous, les professeurs d'université, leur rôle, c'est de former. De former à des disciplines diverses. Mais il n'appartient pas à ceux qui ont formé d'aller sanctionner les déviations. Il y a des institutions qui doivent sanctionner les déviations en matière de gestion financière. Donc tout ça a été dit, il y a des ouvrages, on écrit, on enseigne, mais si les gens ont le démon du détournement et du vol, qu'est-ce que l'enseignant va faire à la place d'un démon qui exécute ce que peut
oui, parce que
son corps lui dicte comme comportement adopté.
Oui, parce que ça risque d'être un peu paradoxal, la théorie reçue à l'école et la pratique, ce que nous voyons sur le terrain, on sent qu'il y a vraiment un hiatus entre ce qui est dit et ce qui est fait, ça risque de perturber quand même certains étudiants, ça c'est l'opinion des uns et des autres. Il y a Sylvain qui est à Bounia et Otchoumbé est à Kalemi. Bonjour Sylvain. Voilà, bonjour. Nous prenons plutôt Otchoumbé. Bonjour Sylvain. Otchoumbé, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes à Kalemi, vous avez suivi les uns les autres, les auditeurs qui vous ont précédé, vous avez à votre tour la parole. Oui, allez-y.
Allô?
Oui, allez-y, nous vous écoutons.
Bien, c'est plutôt Sylvain qui est à Bounia.
Voilà, Sylvain, vous êtes à Bounia. Oui, Sylvain, vous êtes à Bounia, allez-y.
Oui, en fait, je voudrais d'abord remercier la Radio Kapi, puisque vous savez que le sujet est très important, puisque c'est le budget de l'État. J'ai suivi votre invité. Je suis un peu inquiet puisque, à un moment donné, il dit que la culture d'un crédit provisoire, c'est quelque chose normal, qui ne peut pas inquiéter. Mais moi, je crois que votre invité doit d'abord rentrer sur la définition d'un budget d'État. Nous savons tous qu'un budget est un acte par lequel sont prévus et autorisés à l'avance et d'une manière périodique les recettes et les dépenses de l'État. Je crois qu'à ce niveau même de discussion seulement du budget, on doit relever certains nombres de problèmes à ce qui concerne les gouvernements de notre pays. Nous sommes dans la matière de crédit provisoire. Nous savons que le crédit provisoire n'est accordé que lorsque les parlementaires n'ont pas pourvu le gouvernement d'un budget à temps utile et à temps nécessaire. Mais moi, je crois qu'au Congo, c'est devenu une culture. Ça fait presque 2 ans qu'on vit par des crédits provisoires. Alors que nous savons qu'un État ne vit que par un budget bien signalé et bien fait. Quels sont mes constats? J'ai des grands constats. Il faut noter d'abord que lorsque nous parlons de l'exécution du budget, c'est la troisième opération dans les techniques budgétaires. Et ça, les financiers le savent bien.
Mmh.
Avant l'élaboration et l'établissement du budget, il y a l'examen et le vote du budget. Mais l'exécution du budget, qui en est la troisième étape, je pense, subit la mauvaise volonté des acteurs politiques congolais. Tout simplement parce que dans les cadres techniques, il faut reconnaître une seule chose. Ça veut dire que ces 4 techniques sont étroitement liées entre elles. Mais au Congo, c'est un problème. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un Parlement qui ne sait pas voter les lois, surtout à ce qu'on fait le budget, qui est la vie de la nation, à Tahiti? Moi, je pense que les gens doivent avoir une volonté permissive de la concession, mais aussi une volonté permissive pour maltraiter le peuple congolais. Je suis tout simplement tenté de croire que si nous étions responsables, sachant que nous sommes arrivés à la fin de l'année, puisque la Constitution dit que le budget d'une année future n'est établi qu'au dernier trimestre de l'année antérieure ou de l'année suivante. Mais nous pourrions adopter le budget de l'année passée avec un esprit de la correction budgétaire, c'est-à-dire on adopte le budget de l'année passée, mais au courant de l'année, on y va sur les crédits additionnels, et chaque fois de vivre par des crédits provisoires qui, en réalité, ne raffermaient pas tous les grands problèmes de l'État. Moi, je pense que dans les temps à venir, il faut que les gouvernements, au niveau de la première étape de l'élaboration de l'établissement du budget, doivent être honnêtes et rapides pour établir un budget à temps utile, pour permettre aussi aux députés de le faire à temps utile, puisque tout ce qui se passe, ça va affaire à des budgets annuels, puisque à l'heure actuelle aussi, selon les conjonctures économiques de notre pays, on ne peut pas aller dans l'idée d'un budget cyclique qui peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans pour qu'on ait une histoire de crédit. Voilà, monsieur le journaliste, ce que j'ai à dire.
Voilà, merci beaucoup, Sylvain. On va à Kikwit, dans le Bandundu, retrouver Arsène. Arsène, vous attendez depuis très longtemps, bonjour. Oui, Arsène, vous êtes avec nous?
Oui, oui, je vous écoute.
Voilà, Arsène, vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup. Mes prédécesseurs, je crois qu'ils ont expliqué l'histoire du point de vue tout à fait technique. Moi, j'irai un tout petit peu à côté. Quand un enquêteur est en train de faire une enquête, la première question, s'il s'agit de commettre une gaffe ou il y a crime quelque part, on se pose la question de savoir à qui profite le crime. Aujourd'hui, mon intervention va se baser sur la façon dont on est en train de faire marcher cet État. La première question est celle-ci. Est-ce qu'il y a de l'argent dans la caisse de l'État? Ça, c'est la première question. La seconde question, faut-il, à chaque instant, chaque début de l'année, il faut adopter quelque chose pour essayer un peu de faire le provisoire, ou comment on gère vraiment ces pays? Parce que moi, je trouve, à mon avis, nous avons affaire à tout un système mafieux qui utilise des termes techniques pour flouer les Congolais. Nous, on est en train de flouer les Congolais. Un pays ou une entreprise pour bien marcher, doit avoir un budget. Le budget, ce n'est pas en l'air comme ça qu'on élabore un budget. On doit avoir le moyen. Est-ce que ces moyens sont mis en ordre pour que le pays puisse marcher correctement? Et si le budget n'est pas encore adopté, ou le Sénat veut proposer autre chose que la Chambre basse? Mais il faut avoir d'abord les moyens. Et ces moyens, est-ce que c'est disposé? Ou bien on va tâtonner, et telle chose va venir de telle part. Mais vraiment, c'est regrettable. Nous allons faire des analyses, nous allons faire des discussions ici, mais tant qu'on aura ce système qui est vraiment mis à jour, tous les Congolais le voient, tous les Congolais sont en train de constater, nous n'allons pas marcher comme ça. On ne peut pas marcher comme ça. Ces gens qui se disent techniciens ou technocrates ou je ne sais quoi, mais qu'est-ce qu'ils nous présentent vraiment? C'est regrettable. Moi, je ferai appel plutôt à nos compatriotes qui sont à la direction de ce pays de prendre les choses au sérieux. Sinon, demain, c'est même leurs enfants. Ils ont une progéniture. Ce sont leurs enfants qui vont être gênés de ce que leurs parents ont fait. Nous devons nous rendre compte. Vraiment, je ne sais pas beaucoup entrer dans
le sujet, parce que je ne suis pas technicien
dans cette matière, mais je dirais, appel au patriotisme, s'il vous plaît.
Oui, merci Arsène. Là, nous retenons une chose. Hein. Vous avez posé comme ça une question directe. S'il y a de l'argent dans la caisse de l'État, donc en fait, à la fin de l'exercice budgétaire, il y a quand même un contrôle qui est fait. On sait voir combien on a pu réaliser comme recettes et les prévisions en fait des recettes. Et puis, qu'est-ce qu'on a pu réaliser concrètement et combien on a dépensé et qu'est-ce qui reste, parce qu'il y a une opinion qui parle quand même des crédits non utilisés à la fin de l'exercice. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Professeur Grégoire, nous revenons à vous, mais tout en rappelant d'abord à nos auditeurs qu'ils peuvent également nous participer à ces débats en composant les 081 890 63 15.
Parole aux auditeurs par internet pa@radiookapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Professeur Grégoire Bakandeja, vous avez suivi les interventions de tout à l'heure, les inquiétudes, en tout cas, c'est vrai, les opinions sont très très partagées. Là, ça nous pousse quand même à poser la question de savoir les crédits non utilisés à la fin de l'exercice. Qu'est-ce qu'on en fait?
Bon, d'abord, il y a quelques précisions qu'il faut apporter. Comme vous l'avez dit à la fin de votre intervention avant la coupure que nous avons eue tout à l'heure pour la publicité, le budget, c'est un acte de prévision. Chaque fois que les gens parlent du budget, on voit comme si c'était de l'argent qui était quelque part. Non, c'est un acte de prévision des recettes et des dépenses. Eh bien, l'évolution des finances publiques montre bien que ce qu'on peut prévoir, par exemple, en début de l'année, peut s'avérer insignifiant en cours d'année ou à la fin de l'année. C'est pourquoi on a prévu des lois pour rectifier les lois de finances de l'année. Et c'est important de le savoir, et aussi sur le plan terminologique, de faire la différence entre ce qu'on appelle budget et la loi des finances. Mmh. Le budget nous prévoit et autorise à la forme législative, ce qu'on appelle les charges et les ressources de l'État, et la loi des finances, qui contient le budget, traduit les objectifs économiques et financiers du gouvernement. C'est le gouvernement qui a la maîtrise de ce budget. Et c'est sur base de ses objectifs, de son programme de développement, qu'on va alors disponibiliser les moyens pouvant permettre d'atteindre ces objectifs-là. C'est comme ça que ça se fait dans tous les pays du monde. Mais si la prévision budgétaire a toujours été incertaine, la prévision budgétaire a été incertaine parce que tout dépend de rentrées de recettes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de la sensibilité fiscale. Lorsque nous sommes en basse conjoncture, quand il y a des problèmes économiques, etc., en basse conjoncture, les recettes de l'État ne rentrent pas. C'est en hausse conjoncture que les recettes de l'État peuvent entrer. Voilà pourquoi dans tous les pays, on fait un effort pour que les choses fonctionnent normalement, c'est-à-dire que tous les agents économiques participent au fonctionnement de l'économie en toute transparence. Les personnes physiques comme les personnes qui doivent payer les impôts doivent payer les impôts. Il ne faut pas qu'il y ait des détournements. Mais même quand le gouvernement utilise les moyens qui sont mis à la disposition par le Parlement, que les parlementaires viennent pour contrôler, et éventuellement sanctionner lorsqu'il y a des détournements, on récupère. C'est comme ça que fonctionne un État. Mais nous avons dit au départ que lorsque ce minimum-là n'est pas assuré, en ce moment-là, on se trouve devant une difficulté. C'est important qu'il y ait des hommes dans ce pays qui aient des inquiétudes, qui sont conscients de la situation économique de notre pays qui est difficile. Mais c'est ensemble qu'on va trouver une solution. Et vous n'allez pas chercher des dirigeants en dehors de ce que vous êtes choisi vous-même. Lorsqu'il y a eu les élections législatives, mais si vous envoyez au Parlement des gens qui n'ont pas les capacités nécessaires pour comprendre les mécanismes et savoir comment interpréter les lois, comment utiliser le pouvoir des parlementaires pour contrôler le gouvernement. Alors vous, qui va faire ce travail? C'est pas la population qui va faire ce travail, la population a choisi des gens. Et vous savez, lorsqu'on organise les élections, comment les gens se comportent. Ceux qu'on choisit ne sont pas nécessairement ceux qui remplissent les critères. Donc c'est comme il parle du système. Donc chaque peuple mérite les dirigeants qu'il se dote.
Oui, mais il y a quelqu'un qui a parlé des crédits non utilisés à la fin de l'exercice budgétaire.
Mais le crédit non utilisé à la fin doit rentrer généralement au trésor. Et si on n'a pas utilisé les crédits au niveau d'un gouvernement, hein, on peut solliciter soit la reconduction de ces crédits dans les budgets suivants, soit leur annulation. Quand ces crédits sont en annulation, ça rentre dans le trésor, ça ne va pas dans les poches des individus. C'est d'où la nécessité de contrôler.
Oui,
il y a des crédits qui ont été prévus. Qui doit assurer le contrôle?
Mais
le contrôle de l'utilisation des recettes et des dépenses, c'est la Cour des comptes qui doit faire ce travail.
Oui, mais parce que présentement, pour 2012, il n'y a pas eu un débat, c'est ça l'inquiétude de certains auditeurs, il n'y a pas eu un débat autour de l'exécution de ces budgets 2012.
Ah, mais il n'y a pas eu de débat, ça ce n'est pas... Moi, je ne défends pas le gouvernement, ni le Parlement.
Voilà.
Donc, il n'y a pas eu de débat.
Donc, de toute façon, c'est que quand il y a...
J'ai dit tout simplement qu'en principe, avant de voter un budget, il y a toujours des débats. Il y a eu quand même des débats au niveau de la Commission économique et financière de l'Assemblée. Débats pour faire venir les membres du gouvernement, leur poser des questions. Pourquoi vous avez voulu... vous voulez dépenser autant, alors qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu ce débat-là. Ça, d'abord, au niveau du gouvernement, il y a des débats. Et puis, au niveau de la Chambre législative, les commissions des finances de l'Assemblée et du Sénat doivent avoir interrogé les différents membres du gouvernement sur l'utilisation qu'ils ont fait des crédits qui leur avaient été accordés et ce qu'ils comptent faire des crédits qu'ils sollicitent.
Voilà, peut-être que ce n'est pas le débat du jour. Nous allons peut-être nous atteler aussi sur le tout dernier rapport de la Cour des comptes, hein, par rapport au budget, par rapport à l'exécution du budget 2012. Nous y reviendrons peut-être très prochainement. Maître Vincent est à Kananga, au Tchumbe Academy. Maître Vincent, bonjour. Voilà, Maître Vincent, vous avez suivi notre invité, également les auditeurs qui vous ont précédé. Vous avez à votre tour la parole.
D'accord, monsieur le journaliste, moi je trouve qu'il existe plusieurs causes qu'il convient d'appeler ici obstacles qui freinent bien entendu l'exécution du budget en République démocratique du Congo. Je voudrais beaucoup plus m'apesantir sur le recours aux procédures exceptionnelles d'exécution des dépenses. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, à mon humble avis, je l'appelle multiplicité des centres d'ordonnancement. La troisième cause, c'est l'inefficacité des contrôles en matière de dépenses. Quatrième cause, c'est justement la déficience de l'application des textes légaux et réglementaires. Et cinquième cause, c'est aussi la difficulté matérielle et financière des organes de contrôle. Et sixième cause, c'est juste la budgétisation des dépenses et recettes. Monsieur le journaliste, comme vous le savez, le droit budgétaire congolais recommande que l'exécution des dépenses et recettes respecte toutes les étapes, en l'occurrence l'engagement. Mais malheureusement, en République du Congo, cette exception est devenue la règle, dans le sens que la quasi-totalité des dépenses qui sont inscrites au budget ne sont engagées qu'en procédure urgente, alors que l'on est dans une situation normale de gestion de la République. Et vous savez, M. Nadis, quand on parle des dépenses urgentes, il faut entendre les dépenses nécessitant un décaissement immédiat des ressources. Et d'une telle, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une agression étrangère, catastrophe naturelle et consorts. Mais vraiment, en République du Congo, l'exécution des dépenses laisse accréditer la thèse selon laquelle il y a une certaine asphyxie de la procédure normale au profit de la procédure exceptionnelle de l'engagement des dépenses. Et comme vous le constatez, Là, je parle de la multiplicité des centres de lancement. Je vous dis seulement, monsieur le ministre, que la bonne gestion des finances publiques exige pour sa mise en œuvre le respect de certains préalables. Et ces préalables sont généralement structurels, notamment l'attribution, bien entendu, de l'économie et que sais-je encore. Mais force est de constater qu'arrivé dans le Congo, on assiste. Et c'est ça même le fait qui étonne à la scission de l'économie, des finances, du budget en trois ministères. Et ce qui est à la base, c'est justement la lutte des positionnements et la confusion des attributions et compétences entre les différents ministères qui devraient généralement être fusionnés et donner naissance à un seul. Et s'il faut parler de l'inefficacité du contrôle, c'est que mes prédécesseurs ont déjà souligné cet aspect. Vous savez que les tests sont assez clairs en matière de contrôle, en prévoyant le contrôle des trois ordres. Nous avons le contrôle de la Cour des comptes, l'inspection des finances et des inspecteurs, ainsi que le Parlement.
Le Parlement.
Mais force est de relever qu'il existe beaucoup de difficultés et d'embûches dans l'exercice de cette noble mission de contrôle. En fait, on a besoin de relever ça, mais ce que nous devons retenir, c'est que il y a des causes profondes de ces difficultés qui ne sont pas recherchées ailleurs, et surtout l'application déficiente des textes légaux et réglementaires qui organisent même le contrôle. Il y a aussi des difficultés financières et matérielles auxquelles sont butés les organes chargés de procéder au contrôle des dépenses et recettes publiques de l'État. Donc, en référence à ce Congo, c'est depuis 2006, monsieur le journaliste, que les organes chargés des contrôles ne s'occupent pas tellement de la bonne application des dispositions des tests.
Voilà, donc oui, peut-être maître Vincent, vous l'avez pris en cours, hein, nous l'avons dit, pour la question sur la Cour des comptes, en fait ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour, nous allons peut-être y revenir très prochainement, hein, pour en savoir un peu plus, pour nous poser la question, où en est-on, qu'en est-il de cette Cour, est-ce que ça existe bel et bien, et quels sont les contrôles qui ont été déjà faits, et surtout que nous venons d'aborder la question sur les 10 ans d'utilisation des crédits provisoires, est-ce qu'on va encore en continuer comme ça jusqu'en 2014, 2015, 2016. Mais voilà, nous voyons tous ensemble quels sont les inconvénients. Merci maître Vincent d'avoir appelé des Kananga et surtout d'avoir apporté cette contribution à cette émission. Otumbe, vous êtes à Kalemie. Bonjour. Otumbe, vous êtes avec nous. Voilà, malheureusement, Otumbe n'est plus en ligne, n'est pas en ligne. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez également nous rejoindre en composant les 081-890-6315.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, heure de Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient, de lundi à vendredi, de 11 à 12h, et mercredi, dès 10h, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
On revient à vous, professeur Grégoire Bakandeja, et on revient également à l'intervention de tout à l'heure de Vincent, qui nous appelait des Kananga, qui a brossé quelques étapes d'élaboration du budget et de l'exécution. Il a donné quelques principes. Et que répondez-vous à Vincent?
Bon, écoutez, je vais pas répondre à Vincent. Je crois que Vincent a rappelé c'est les mots qui rongent les finances de la République démocratique du Congo, qui sont connus. Ça fait depuis longtemps que ces mots ont été rappelés. Cette multiplicité des centres de relancement, c'est connu, le non-respect de la procédure en matière d'exécution des dépenses, comme l'exécution des recettes.
Bon. L'inefficacité du contrôle.
L'inefficacité du contrôle est liée à beaucoup de causes. Mm-hmm. Il y a beaucoup de causes sur lesquelles on ne peut pas revenir, parce que là on parlait seulement de crédits provisoires, etc. Mm-hmm. On sait par exemple que en matière de respect de procédure, il y a par exemple l'obligation de recouvrer les recettes, parce qu'on insiste beaucoup sur les dépenses. Obligation de recouvrer les recettes. Mais qui doivent recouvrer les recettes? Ce sont les régies financières. Nous avons des régies financières au niveau national et des régies financières au niveau provincial. Pour que ces régies fonctionnent très bien, il faut nécessairement que leur efficacité soit prouvée par la formation des hommes, les équipements nécessaires, etc. Or, on sait que dans ces régies financières, circule un vent qui est défavorable aux intérêts de la République. Tout le monde voit comment on détourne les recettes de l'État ne vont pas dans les caisses du Trésor.
Mais ce qui étonne, professeur, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, par rapport au bilan, nous avons tous suivi à la télé, la DGDA a fait des recettes au-delà des assignations. C'est vrai qu'au niveau de la DGI, il y a eu un tout petit peu baisse, mais quand même, c'était appréciable. Au niveau de la DGRA, de même moment, il y a eu hausse par rapport aux assignations. Mais c'est que la RDC a le moyen de sa politique pour avoir un budget conséquent et aussi l'exécuter à temps.
Non, là, la RDC n'a pas les moyens conséquents. Parce que tout ce qui est fait là est fait sur ce qu'il y a comme rentrée et les efforts qui sont fournis pour amener progressivement ceux qui évoluent dans l'informel vers le formel. Or, vous savez qu'au Congo, beaucoup d'activités se déroulent en dehors du circuit formel. Presque 78% de l'économie fonctionne dans l'informel, et quand il y a informel, il y a baisse des revenus pour l'État. Mm-hmm. Il faut donc, il n'y a que les 22 à 30% des activités qui sont dans le formel. Et puis, il y a des investissements. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont créées tous les jours. Parce que l'argent de l'État provient de ressources qui sont collectées sur la production nationale. Or, si vous ne produisez pas, vous savez qu'au Congo, les gens préfèrent parler, boire, danser, et ne pas travailler. Il faut un travail productif. Le travail productif, c'est par exemple pour la production nationale, la transformation de ce qu'on produit localement. Mais si vous ne faites que vendre les produits que vous extrayez de votre sol, vous les vendez à l'extérieur, sans les transformer, sans ajouter la valeur ajoutée. Mmh. Vous n'allez pas avoir de ressources. Donc vous voyez que pour prévoir des dépenses, il faut s'assurer qu'il y a des recettes. Et les recettes proviennent des activités qui sont réalisées par les personnes physiques et les personnes morales. Quand je prends un exemple, nous sommes par exemple au Congo, 70 millions d'habitants, personnes physiques. Mais combien de personnes physiques payent les impôts? Combien de personnes physiques payent les impôts? C'est prévu par la loi, mais les gens ne payent pas. Alors, vous ne pouvez pas demander à un État plus de droits que vous lui avez donné. Donc, il y a déjà cet aspect-là qui est important. Deuxièmement, il y a eu la destruction de l'économie du pays par... on est habitué à nous entretuer avec les guerres, etc. Mais ça diminue les ressources publiques. Les ressources publiques proviennent aussi des activités de ces entreprises. Lorsqu'il y a une guerre quelque part, comment vous allez travailler? Vous voyez que tous ces éléments font que les finances publiques sont devant des défis majeurs aujourd'hui. Au-delà des défis de l'autonomie budgétaire ou de la soutenabilité de la dette, nous avons quand même eu la chance d'avoir une dette supprimée en partie.
En partie, oui.
Il y a les défis de la transparence dans la gestion. La transparence dans la gestion publique et vis-à-vis même des citoyens, rendre compte aux citoyens de ce qu'on a fait. Donc vous voyez que c'est tellement de problèmes importants que ne peuvent être résolus que par une prise de conscience collective sur la nécessité qu'il y a d'aller de l'avant. Lorsque, par exemple, aujourd'hui, on parle de renforcer le budget de l'État en matière de défense, est-ce que ce qu'on va accorder à la défense nationale sera suffisant pour résister face à toutes les menaces que nous avons avec nos frontières qui sont dans les conditions que vous connaissez? Non, c'est toujours insuffisant.
Voilà, professeur, nous avons encore 10 minutes pour clore cette émission. Nous avons Aladji qui est à Kindu et Raphaël à Guémena. On va leur accorder également la parole. Et puis on va revenir à vous pour la conclusion. Aladji, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Merci, bonjour.
Voilà, Aladji, vous avez la parole.
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Par rapport au sujet, je suis un peu désolant parce que nous avons l'exécutif qui se déclare technocrate, mais il ne le prouve pas. C'est pourquoi je vais poser d'abord au professeur une question. Le professeur Bakandédia va nous expliquer lorsqu'il y a la réalisation de l'imprévu par rapport au prévu. Cela prouve quoi? Parce qu'il y a des fois que l'exécutif s'emprunte pour sortir d'une crise. Et la crise ne vale presque pas à grand chose au changement. Nous restons bloqués, limités, et l'extérieur nous voit toujours à un niveau trop bas. Mais à ce point, je voulais demander au professeur Bakandéja de nous expliquer encore, est-ce que la RDC il y a une fois qu'elle était arrivée à faire nier aux volontés de la population. Si ce n'est pas le cas, et nous avons des professeurs des finances publiques, et nous avons les agents, les hommes politiques qui se déclarent être capables, pourquoi ne pas le mettre hors d'état de nuire afin de ne plus continuer à gérer le pays dans la détérioration?
Voilà, on va éclairer un peu votre intervention à la GIE. Aujourd'hui, c'est vrai, votre inquiétude tourne autour de l'existence donc de professeurs qualifiés, experts en budget, qui doivent mettre leur savoir-faire et leur savoir-être au bénéfice de la nation, c'est-à-dire apporter quand même quelques conseils. Le professeur l'a dit tout à l'heure, peut-être vous venez de nous prendre en cours, il y a des professeurs qui ont écrit sur la situation de l'économie nationale, ils ont écrit sur les budgets, ils ont écrit sur pas mal de questions liées aux lois des finances. Voilà, donc c'est à nous, population, de consulter ces documents et pour nous faire une idée claire là-dessus, Aladji. Mais pour le cas d'espèce, les crédits provisoires qui est utilisé, c'est devenu une habitude. Hein, 2 ans déjà, le pays, en début d'année, disons, recourt à la 12e provisoire. Nous nous disons, quels sont les obstacles? Est-ce que c'est lié, comme l'a dit, comme l'ont dit certains de vos prédécesseurs, que c'est la mauvaise gestion, les gens ne sont pas contrôlés, voilà, ça profite à d'autres personnes, ou peut-être c'est dû à autre chose, et selon vous, Aladj?
Ça, c'est dû à une mauvaise gestion, et la plus grande affaire, là, ils cherchent l'enrichissement rapide. Parce que s'ils le font comme ça, après un budget, ils cherchent à s'enrichir, parce qu'ils vont donner des motifs non fondés, et ce motif-là ne sera pas bénéfique à la population. Voilà comment ils sont en train de nous utiliser pour s'enrichir.
Voilà, donc je comprends bien que vous insistez sur l'installation, comme l'a dit Christophe Campi, la solution serait qu'il faut créer une institution indépendante chargée de contrôle, donc mise à part le Parlement. Raphaël, vous êtes à Guémena, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, Raphaël, vous avez également la parole.
Monsieur Gilles. Peut-être que nous soyons un peu sérieux. De toute façon, monsieur, l'invité qui est au plateau là doit nous dire une certaine vérité. Le budget est alloué pour le 2013. Chaque année, on a plusieurs budgets qui ont dit qu'il y a un budget provisoire, À l'autre, à tous les côtés, il y a une partie de garage qui reste. Maintenant, la chambre haute et la chambre basse, ce sont des mandataires de la population qui doivent contrôler le gouvernement. Mais si ils ne peuvent pas contrôler le gouvernement, quel est maintenant leur rôle? Ça ne servait à rien d'être là. On arrive à comprendre que non, si le Parlement et le Sénat ne parviennent pas à contrôler le gouvernement, c'est-à-dire qu'ils n'ont signé pas des lions dans les restes des budgets qu'ils ont votés. Par exemple, nous prenons un exemple du secteur de l'enseignement. Donc, chaque année, il n'y a rien de changement. Alors, il y a des gens qui doivent vivre au dépens de ces budgets du gouvernement. Ils sont aussi les Congolais. Mais cet argent est alloué toujours à la défense. Qu'est-ce qui servait à rien? Il n'y a rien de spécial qu'on doit parler que non, l'enseignement est annexé toujours au budget du gouvernement. Alors nous sommes des Congolais. J'aimerais que non, le ministère puisse nous éclairer au clair que non, les budgets sont alloués, une partie, on dit le budget provisoire, une partie est allouée pour leur intérêt. Mais ces enfants et ces femmes sont allés à l'Europe après 5 ans, 10 ans, ce sont ces enfants qui reviennent toujours gouverner le pays. Alors que nous aussi, nous sommes des enseignants, tant qu'ils sont des. Nous devons quand même gouverner le pays.
Merci, Raphaël. Professeur Grégoire Bakandeja, pas mal d'inquiétudes. C'est vrai, les gens ne comprennent pas pourquoi nous devons nous éterniser à la consommation des crédits provisoires, pourquoi on doit chaque fois recourir à la 12e provisoire chaque année. Est-ce qu'on ne peut pas arrêter cette hémorragie et comment y arriver?
Ah, monsieur le journaliste, moi aussi je comprends les inquiétudes de nos amis. C'est parce qu'il y a... au départ, une sorte de confusion un peu. On ne résout pas les problèmes de l'État à travers le budget. On ne peut pas résoudre tous les problèmes de la nation à travers le budget. Ça, c'est la première chose que je peux ajouter. Deuxièmement, le budget, ce n'est qu'une prévision. On peut par exemple prévoir aujourd'hui qu'on ait 15 milliards de dollars de dépenses à réaliser. Mais les 15 milliards de dépenses à réaliser doivent être fondées sur des recettes. Si vous n'avez pas de recettes internes pour les atteindre, vous serez obligé de recourir à l'extérieur, si on peut vous le donner à l'extérieur, mais recourir aussi à l'extérieur, c'est augmenter les charges de l'État, parce qu'il faudra aussi rembourser. C'est pourquoi, dans presque tous les pays, on fait un effort pour que la gestion publique se fasse dans le respect des règles qui sont prévues. Et que quand il y a manquement à des règles et des obligations qui sont prévues par la loi, que l'État organise le système de manière à récupérer ce qu'il a perdu. Parce qu'il y a eu, par exemple, des dérapages en matière d'exécution des dépenses, parce qu'il y a eu la disparition des fonds publics par le fait des gestionnaires. C'est comme ça que ça marche. Et puis, troisièmement, votre ami a parlé des parlementaires qui ont été élus, etc. Mais les parlementaires ont été choisis par les populations. La pression que vous devez faire, c'est sur ces parlementaires pour que le contrôle de l'utilisation des ressources soit un contrôle qui soit efficient et efficace. Et dans tous les pays, c'est un débat permanent dans les rapports entre les dirigeants et ceux qui sont dirigés, c'est d'arriver à une transparence. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on insiste sur la transparence dans la gestion, dans les gestions publiques, mais la transparence, ce n'est pas un discours. La transparence doit se traduire par des actes et conduire à un certain nombre de sanctions positives ou négatives lorsque ceux qui gèrent l'État, qui gèrent les biens de la collectivité, parce que l'argent de l'État, c'est ce qu'on appelle les deniers publics, c'est l'argent de l'ensemble de la population. Donc il faut être vigilant vis-à-vis de personnes qui manipulent ces moyens sans précaution.
Voilà, c'est par ici que nous bouclons ce débat. Merci à professeur Grégoire Bakandeja d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt.
Merci.
Merci aussi à vous tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Jean-Noël Mokondo qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou et Pierrot Elameji l'ont réalisé et J.R. Lungembo vous l'a présenté et coordonné sous la supervision de Nicole Ngaka. Écoutez cette émission sur www.radiokapi.net. Depuis quelques mois maintenant, on observe des perturbations du courant électrique dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa et au Katanga. Selon les responsables de la SNEL, ces blackouts seraient dus aux menaces des fondements du réseau Inga Kinshasa et Inga Katanga. Que faut-il faire, selon vous, pour assurer la survie normale du réseau d'Inga? C'est la question principale du débat de demain. Pour participer, inscrivez-vous déjà et faites-nous parvenir à l'adresse pa@radiocapi.net vos commentaires et préoccupations. Et vous pouvez également les poster sur notre page Facebook. À très bientôt. Thank you.